Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'écho de ma commune. Je reçois aujourd'hui dans nos studios du Rocas de Radio Grand Ciel le maire de Dreux, Gérard Hamel. Bonjour.
Bonjour.
Depuis nos dernières entrevues, Gérard, beaucoup de choses ont changé. Nouveau président de la République, nouveau gouvernement, nouvelles lois, nouvelles données pour notre ville également ou malgré tout une continuité
Pour notre ville, nous sommes à mi-mandat. Un petit peu plus même, on a dépassé la mi-mandat, donc les choses continuent. Avec, c'est certain, quelquefois des donnes nouvelles en fonction de ce que le gouvernement décide.
Ça, nous allons en parler.
Et je cache pas aujourd'hui notre inquiétude, mon inquiétude en tant que maire sur ce qui devrait théoriquement se passer.
Est-il exact que les prochaines élections municipales vont être retardées d'un an ?
C'est ce qu'on dit, c'est ce qui se dit de plus en plus fort dans les couloirs du Parlement, de l'Assemblée ou du Sénat.
Autrement dit, tu seras à la tête de notre bonne ville un an de plus, jusqu'en 21.
S'il le faut, j'irai jusqu'en 21, mais voilà, j'abandonnerai pas en cours de route. J'ai affirmé plusieurs fois que puisque j'ai accepté ce mandat, j'irai au bout de ce mandat, et donc si c'est pas 2020, ce sera 2021.
Ce matin, le jour où nous enregistrons, j'ai entendu Gérard Larcher dans le Télématin, Les Quatre Vérités, qui parlait des nouvelles dispositions que prenait le gouvernement vis-à-vis des communes, des villes et surtout de la fronde qui se lève dans toutes les communes et les villes, enfin la plupart des villes, de l'Eure. On est très près de l'Eure. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que l'Eure-et-Loire va se joindre au mouvement.
Le Sénat réunit les élus communaux, les élus territoriaux. Ils sont les représentants des élus territoriaux. Et Gérard Larcher s'est fait ce matin le relais. D'abord, je veux dire que je suis ravi de sa réélection. Je suis ravi aussi de la réélection d'Albéric de Montgolfier en tant que rapporteur général des finances au Sénat. Gérard Larcher m'avait dit un jour, j'entretiens des relations régulières, courantes avec Gérard Larcher, il m'avait dit « J'ai à mes côtés le rapporteur le plus performant que j'ai eu à connaître depuis que je suis président du Sénat ». C'était un bel hommage à Albéric de Montgolfier. Mais je reviens sur ce que Gérard Larcher...
Albéric de Montgolfier était président du Conseil Général, qui est devenu le Conseil départemental.
Il a démissionné samedi.
Et qui est le nouveau président ?
À l'occasion du congrès des maires, il avait présenté sa démission dans la journée. C'était le dernier jour où il pouvait le faire. Il a fait une intervention remarquable et remarquée devant l'ensemble des maires du département samedi.
Très applaudi.
Et je crois qu'on peut le remercier. C'était un bon président, vraiment qui avait une vision. C'était le successeur de Martial Taugourdeau depuis 2001. Et c'est vrai qu'il a fait du bon travail à la tête de notre département.
Et maintenant, c'est devenu le conseil départemental.
C'est le conseil départemental.
Qui d'ailleurs sponsorise cette émission.
Il y a un président par intérim qui est le premier vice-président, Joël Billard, qui assure l'intérim, puisqu'il y a un délai maintenant de convocation du conseil départemental, qui est de 12 jours à compter de samedi dernier, au cours duquel le conseil va être convoqué, invité à siéger, pour élire son nouveau président.
Mais M. Billard peut tout à fait être élu comme président.
Il peut être candidat.
Il peut être candidat.
Mais si j'ai l'oreille assez fine pour entendre ce qui se passe, il ne sera pas le seul s'il est candidat. J'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres. Bon, moi je regarde ça avec intérêt, parce qu'on travaille malgré tout avec le conseil départemental, mais en aucune manière je veux faire de l'ingérence dans le conseil départemental. Il va choisir son nouveau président et je travaillerai comme je travaillais avec Albéric de Montgolfier, avec celui qui présidera l'Assemblée départementale.
Gérard Larcher disait que pour la défense des territoires, oui, il fallait de la confiance et du respect.
Oui, alors Gérard Larcher a exprimé ce matin, il se trouve que je l'ai entendu puisque je savais qu'il intervenait dans les quatre vérités du matin. Il a relayé le souci réel qu'ont les collectivités aujourd'hui face à ce qui nous attend, la suppression de la taxe d'habitation, qui soi-disant sera compensée par l'État.
Mais... Alors la taxe d'habitation sera compensée
intégralement
à l'euro près.
Oui, c'est ça, c'est ce que l'État a toujours dit. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la première année. mais ça dure pas. Après, au fur et à mesure, ça décroît pour qu'au bout de 10 ans, il n'y ait plus de compensation. Justement, Albéric de Montgolfier disait que il faudra très probablement inventer un nouveau système qui permettra aux collectivités locales de garder leur indépendance financière. Parce qu'en supprimant la taxe d'habitation, et qui était le lien fiscal entre les citoyens et les collectivités, bien en même temps, on est un peu plus tributaire encore des dotations d'État et donc de l'État. Et on perd l'autonomie financière que l'on a déjà perdue, mais on en perd encore un petit peu plus. On va bientôt être étatisé. L'État va tout décider pour nous, qui commande paix. Si ça devait être le cas, avec la suppression de la taxe d'habitation, nous n'aurions plus, nous, les collectivités locales, aucun pouvoir. C'est donc dangereux, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses que l'État aujourd'hui prévoit, c'est pas voté.
J'espère la suppression des contrats aidés.
La suppression des contrats aidés, c'est une catastrophe à la fois brutalement. Moi, sur l'analyse de fond, on peut être en accord avec cette analyse de fond. Ce qui est extraordinaire dans ce gouvernement, et avec Macron, et malgré les promesses qu'il a pu faire, on décide brutalement, sans concertation, on prend des mesures sans en mesurer forcément les conséquences pour les collectivités. Je pense à l'APL, je pense à la baisse des loyers qui va mettre tous nos organismes HLM dans le rouge, alors qu'on s'évertue gérer du logement social. Financièrement, c'est pas simple, humainement non plus, mais financièrement, c'est pas simple. D'un seul coup, on nous dit on va baisser les loyers de 50 euros. Mais ça, c'est les collectivités.
C'est-à-dire mais tous les loyers, peu importe le...
Les loyers de ceux qui bénéficient de l'APL, de l'aide personnalisée au logement. Mais à Dreux, par exemple, notre office d'HLM, c'est 70% des personnes concernées. Alors, elles se frottent les mains de penser que 50 euros par mois, 600 euros de loyer en moins par an. Le but est de redonner du pouvoir d'achat à ces personnes. Sauf que de l'autre côté, comment est-ce qu'on fait, nous, gérants des sociétés d'HLM, de logement social, comment est-ce qu'on fait, nous, pour équilibrer nos comptes? On va tous avoir des comptes dans le rouge qui vont plus nous permettre ni d'investir, ni d'entretenir ou de réhabiliter le patrimoine à la hauteur qui devrait l'être.
Ça veut dire des ascenseurs qui ne marcheront plus, ça veut dire...
Ça veut dire un mauvais entretien. Moi, j'étais la semaine dernière au congrès des unions des HLM à Strasbourg, et c'était vraiment un sujet d'inquiétude. Le ministre s'est fait un peu chahuter, mais il y a une réelle inquiétude pour nos organismes, une inquiétude pour nos collectivités auxquelles on va diminuer les dotations, on enlève la taxe d'habitation, on retire les contrats aidés. Je vais donner un exemple. Nous avons à la communauté d'agglomération, pour faire fonctionner le centre de tri et au travers d'une véritable politique d'insertion professionnelle, nous avons 70 contrats aidés. Le directeur est venu me voir pour me dire « Aujourd'hui, j'arrive à faire fonctionner le centre de tri, encore une fois, qui est un sas d'insertion pour remettre des gens éloignés du travail, leur remettre le pied à l'étrier, on ne pourra plus faire ». Et donc, ils se demandent si on ne va pas être contraint de fermer ce centre de tri.
Autrement dit, les ordures seront
Non. Les ordures ménagères, on continuera à les ramasser, mais on a un centre de tri départemental, c'est tout ce qui est valorisable, qu'on récupère du département.
C'est très important. Au niveau de l'écologie, je pense que
valorise,
c'est très important.
Etc. On va être incapable de le faire fonctionner avec des tarifs de main-d'œuvre à taux plein. Il y a, je ne veux pas dire pire, mais de la même nature. Toutes les associations, quasiment toutes, fonctionnent avec des contrats aidés. Elles sont paniquées à l'idée de devoir s'en séparer parce qu'elles n'ont pas les moyens aujourd'hui de financer en totalité le salaire d'une personne qui leur était bien utile. Donc il y a des dégâts collatéraux sur des décisions qui sont prises. On se demande si tout ça a été mesuré au niveau de l'État. Mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on a un État très techno, avec des gens probablement très brillants. Souvent, je fais la comparaison avec des énarques qui sont capables de nous démontrer tout et le contraire en une heure. J'ai l'impression qu'on a un État comme ça, où on a des gens brillants à la tête de l'État qui n'ont pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Hein. Et là, vraiment, moi, je suis inquiet en tant qu'élu de terrain. C'est vrai que nos voisins de l'Eure, je connais bien le maire d'Évreux, Guy Lefranc, avec qui j'entretiens des relations régulières en tant que président, lui aussi, de son agglomération.
Je ne sais pas s'il a toujours des relations avec monsieur le maire, qui a été...
Moi, la dernière fois, j'ai rencontré monsieur le maire, venait d'être nommé au gouvernement. Bon, ils ont des relations amicales, ils avaient. Je ne sais pas s'ils vont continuer à l'avoir, mais le maire d'Évreux réagit très violemment, en tous les cas, enfin violemment, je m'entends, hein, on est des élus, on a du savoir-vivre, peut-être que le gouvernement s'appuie aussi là-dessus, mais lui, il a décidé d'organiser une manifestation pour manifester son inquiétude, manifester publiquement son inquiétude. Au mois de novembre, nous allons avoir le congrès des maires de France, je souhaite bon courage, soit au Premier ministre, soit au Président de la République, s'ils viennent nous retrouver à Paris.
Sur une ville comme Dreux, combien d'emplois aidés ?
Dreux, nous en avons 17, qui est essentiellement dans l'animation, mais ça pose un vrai problème. On ne va pas pouvoir garder nos animateurs. Moi, je vais avoir des licenciements à faire sur ces emplois aidés. Je ne peux pas les garder si je dois les payer à taux plein.
Tu m'avais parlé dans une autre émission du problème que ça faisait de ce changement d'horaire pour l'école.
Là aussi, le ministre, on a invité au congrès des maires départementales le samedi dernier. J'avais invité le ministre de l'Éducation nationale qui est venu d'une manière, comme aurait dit Juppé en son temps, il était droit dans ses bottes. Je connais bien Jean-Michel Blanquer, qui est un vrai professionnel de l'éducation. Il a fait toute sa vie dans l'éducation.
Donc il est vraiment au fait des problèmes qu'on peut rencontrer.
Oui, il est venu nous présenter. J'espère qu'il a raison sur le fond. Maintenant, dans l'application et sur la forme, c'est extrêmement difficile. Le dédoublement des classes, moi je veux bien y croire, plutôt que d'avoir 24 enfants dans une école, on en met 12 avec un instituteur, etc. Pourquoi pas ? S'il réussit à la sortie, c'est ce que je lui disais dans mon discours d'accueil samedi dernier, si l'objectif est que les enfants sortent des écoles primaires en sachant lire, écrire, tant mieux. Mais bon, j'espère que le but sera atteint. En tous les cas, nous, collectivités, on a dû faire face à 11 classes supplémentaires. On nous annonce pour l'année prochaine, et le ministre l'a confirmé, qu'il veut dédoubler aussi des classes de CE1 dans des zones d'éducation prioritaire, etc. C'est 15 classes nouvelles, à nouveau, qu'il va me falloir trouver. Je ne sais pas faire.
Et il y a des aberrations. Hier, j'ai vu la fille d'un de nos amis médecins qui a scolarisé ses enfants à Tréon. Et il se trouve que dans cette école, un professeur était vraiment absent tout le temps, c'était quelque chose d'épouvantable. Donc, ils ont recruté quelqu'un, une jeune femme qui est absolument parfaite, qui a tous ses diplômes, et qui va être obligée de partir parce qu'on va lui substituer une contractuelle proche de la retraite et qui, elle, n'a pas les diplômes requis. Qu'est-ce qui peut motiver une décision pareille ? Est-ce que c'est parce qu'on la paye moins cher ? Est-ce que...
Bien sûr, parce qu'il y a moins... Si vous voulez, on ne s'attaque pas vraiment au niveau de l'État au problème de fond. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut un statut unique du travail. Il faut un seul code du travail. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'on soit régi selon que l'on est dans la fonction publique ou dans le privé, par un droit du travail différent et un statut différent.
Alors, est-ce que la nouvelle loi travail va aller dans ce sens ?
Mais non, pour l'instant, elle ne modifie pas le statut. Elle a été votée, la loi travail, mais elle ne modifie pas le statut dans la fonction publique. Il y a des gens, Raymond Barre en son temps appelait ça des nantis, des gens qui sont sûrs, qui travaillent plus ou moins, mais ils sont sûrs de leur poste parce qu'on ne peut pas toucher, ils sont fonctionnaires. Alors évidemment, aujourd'hui, comme ça coûte très cher de se séparer de quelqu'un dans le privé, la loi travail a fait des avancées à ce niveau-là, mais on n'a pas touché au public. Et donc aujourd'hui, en public, un contractuel se rapproche plus du droit privé. Et il est plus facile, en fonction des adaptations que l'on doit faire pour gérer nos communes, il est plus facile d'avoir des contractuels que des fonctionnaires. Voilà à quoi on arrive. Parce qu'on ne prend jamais les problèmes de fond. Je voudrais dire simplement que, très bizarrement, mais quand je dis très bizarrement, c'est une évidence, pendant la campagne électorale, tous ces problèmes de fond n'ont pas été évoqués. On n'a pas parlé finances, on n'a pas parlé de la catastrophe vers laquelle on va, l'endettement qui est celui de la France. Tout ça, on n'en a pas parlé.
Puis 2000 milliards.
Oui, plus de 2000 milliards.
Plus de 2000 milliards.
On arrive maintenant à 100% du PIB en endettement. Et donc,
qu'est-ce qui se passe après ?
Après, et encore, on a des taux d'intérêt très bas. Si les taux d'intérêt devaient monter, c'est la catastrophe. Mais tout ça, on n'en a pas parlé. Et aujourd'hui, l'État, évidemment, est devant les réalités. Et donc, elle prend des mesures. Le problème, c'est qu'elle ne prend pas des mesures pour elle-même, l'État. Elle prend des mesures sur le dos des collectivités, des HLM, sur le dos des citoyens. L'augmentation de la CSG, je suis vent debout contre. Comment prendre à nos retraités qui méritent aujourd'hui un minimum de ressources en fonction du travail qu'ils ont fourni du temps de leur actif.
Et des impôts qu'ils ont payés à ce moment-là.
Aujourd'hui, on ne leur retire pas rien, entre 1200 et 1600 euros par an. Et donc, vraiment, moi, je ne comprends pas la logique de ce que gouvernement qui veut faire des économies ou qui veut chercher des recettes complémentaires sur le dos des gens. Mais que font-ils, eux, si ce n'est que symboliquement de dire on va diminuer le nombre de voitures aux ministres, on va mettre un peu moins de collaborateurs autour d'un ministre, c'est symbolique par rapport à l'effort qui doit être fait de la réforme de l'État qui n'est pas fait. La réforme de l'État passe par la réforme des statuts, des fonctionnaires. On a plus de 5 millions de fonctionnaires dans notre pays. On bat tous les records. Et donc aujourd'hui, il faut attaquer ce problème d'une manière intelligente. Il ne s'agit pas de s'opposer à tous les fonctionnaires qui, par ailleurs, sont pour la plupart des agents sérieux. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de revoir la manière dont on peut traiter. Et je dis, si on ne veut pas bousculer l'existant, j'étais de ceux qui avaient proposé, il y a maintenant plus de 10 ans, quand j'étais encore à l'Assemblée nationale, que ceux qui ont abordé une vie professionnelle avec un statut, ben ils aillent jusqu'au bout. Mais qu'à partir d'une date donnée, on changeait la donne. Pour tous ceux qui arrivaient dans la fonction publique, et ben ils rentraient dans un autre statut. Alors certes, ça avait l'inconvénient d'être long, mais ça bloquait personne.
En fait, pour toi, la justice va de l'embauche à la retraite.
Oui,
la fonction publique.
Il faut qu'on soit. C'est pas seulement dans la fonction publique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de disparités. Il y a trop de disparités dans les statuts, dans les règlements, dans les. Il faut donner un statut général, universel, qui est valable pour tout le monde. Et puis à partir
public
de là.
Public et privé.
Public et privé. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, on ne puisse pas se débarrasser dans le public d'une personne qui n'est pas à son poste ou qui ne fait pas le travail lié à son poste.
Et actuellement, c'est très difficile.
On ne peut pas. On se dit, il y a des gens, on les appelle des gens au placard. Parce que comme on ne peut pas les licencier, on les paye et il reste à rien faire. Alors, je rassure les droits, moi, j'en ai pas. Hein, j'en ai eu. Mais dans l'immédiat, j'en ai pas. Je souhaite ne pas en avoir. Ça coûte très cher à la collectivité. Le statut, finalement, coûte très cher. Alors, je ne suis pas en train d'attaquer pour autant. Je ne veux pas qu'on me dise, ça y est, il est devenu anti-fonctionnaire, anti-agent d'État, anti-agent,
c'est le reproche qu'on fait, etc. D'ailleurs, aux hommes politiques qui disent, je vais supprimer, je ne sais plus combien François Fillon avait dit qu'il allait supprimer de fonctionnaires. Mais on dit, oui, mais il ne faut pas toucher à la police. Et mais ça, tout le monde est d'accord. Il ne faut pas toucher aux hôpitaux, ils sont absolument surchargés, ça devient épouvantable. Aussi bien aux urgences, on est très bien placé pour le savoir à Dreux. Et le reste, c'est... On peut préserver des pans entiers de l'administration.
Il faut agir avec intelligence sur le sujet. Aujourd'hui, l'État a tendance à renvoyer, et les médias y vont dans le même sens, à renvoyer sur les collectivités locales la responsabilité des déficits.
Peut-être parce qu'on les connaît mal, les collectivités locales. Peut-être que on imagine mal ce à quoi ça correspond exactement en termes d'emploi.
Les gens ne savent pas que d'utilité. Les collectivités locales, depuis toujours, ont l'obligation d'équilibrer leur budget. L'État vote des budgets, avec des budgets nationaux, avec des déficits de 300 milliards. On va les chercher où ? Alors que nous, les collectivités locales, tous les ans, nous avons l'obligation d'équilibrer nos comptes.
Comme les particuliers.
Voilà. Alors maintenant, les territoires, en plus l'État, renvoient en permanence des compétences à exercer sur les communes, sans leur en donner pour autant les moyens. Je vais vous donner l'exemple des cartes d'identité.
Cartes d'identité, passeport, en fait, il y a moins de moyens financiers et plus de missions.
Il nous dédommage un petit peu, mais qui est loin de couvrir la réalité du coût de ce que l'État nous impose à faire de plus en plus. L'État est en train de disparaître par rapport à la proximité avec le citoyen. On renvoie tout sur les communes. Alors, sur le principe, moi, je suis pas forcément contre. Sauf que derrière, on nous dit, vous gâchez l'argent public, vous, les collectivités. Non, on nous donne de plus en plus de responsabilités, de compétences à exercer. On nous en donne pas les moyens financiers.
Et puis alors, il y a toujours cette diminution de la dotation globale de fonctionnement qui vous affecte tous.
Bien sûr. Alors on nous dit que 2018, j'espère le croire, que 2018 ce sera encore neutralisé. C'est une bonne chose, mais dans le quinquennat, le président de la République a prévu de nous raboter encore de 13 milliards. Petite ville comme Dreux a perdu sous François Hollande 2,6 millions de dotations. Sans augmenter les impôts, ça veut dire qu'il a fallu que je baisse les coûts de fonctionnement d'autant.
Sans Et comment augmenter on fait pour se passer
eh ben,
d'une...
Nous, on gère ce que l'État ne fait pas. Hein. Donc on essaie au plus près, comme le ferait une entreprise, de calculer le prix de revient, l'optimisation d'un service, mais on arrive à la limite de ce qu'on peut faire. Je le dis aujourd'hui tel que je le pense, nous allons être obligés maintenant, alors qu'on a fait des pressions terribles pour optimiser nos services, pour impliquer nos collaborateurs sur les économies qui seraient susceptibles de faire en regard des services rendus, on arrive au bout. Alors aujourd'hui, de deux choses, hein. Ou on diminue le niveau de service, mais c'est pas ce qu'attendent les citoyens, ou on augmente les impôts. Mais il va se passer quelque chose dans les années à venir si l'État continue à nous supprimer des dotations. J'étais il y a 8 jours chez le président de région, François Bonneau, et je lui demandais une aide sur la future autoroute, je lui demandais sa participation, etc., puisque les collectivités locales, pour des questions d'équilibre global, je passe sur le sujet, devront mettre la main à la poche. Eh bien, Monsieur Bonneau me disait, eh ben non, moi je peux plus. Et il me dit, sur les 13 milliards que prévoit l'État de diminution sur le plan national, il va m'en coûter à la région, moi, 13 millions, c'est pour ça que j'ai bien retenu, 13 millions de dotations en moins.
Et donc, alors qu'est-ce qui va se passer précisément pour l'autoroute dont tu parles là ?
Ben il nous aidera pas.
Donc
il a dit,
le
Conseil régional ne mettra pas d'argent. Vous, les collectivités, vous voulez l'autoroute, vous voulez... des structures pour votre développement, pour votre attractivité, débrouillez-vous, moi je peux plus. Voilà ce qui se passe, la réalité.
Donc
l'autoroute se fera quand même, mais ça veut dire qu'on va s'endetter un petit peu plus, parce que en mettant la main à la poche, il va falloir que je l'emprunte.
Et qui paiera les intérêts des emprunts?
Qui vous croyez qui paye, si ce n'est le contribuable, toujours. Hein, tout ce qui est, les politiques qui sont données aujourd'hui, c'est une critique aussi que je fais, soi-disant qu'on devait changer tout ça, on va jamais au fond des problèmes. Aujourd'hui, la fiscalité est très injuste telle qu'elle est faite, et c'est toujours les mêmes qui payent, ceux qui travaillent, ce qu'on appelle les classes moyennes, ceux qui travaillent, qui
peut-être
se battent,
parce que ce
qui
sont
achètent
les
leur
plus
maison.
Nombreuses, la classe moyenne, oui. Il y a le plus de gens dedans. Donc
aujourd'hui, il faut quand même qu'on revoie au fond tout ça, que la solidarité nationale se fasse pour des personnes qui sont le plus en difficulté. C'est normal, mais il ne faut pas tomber dans la cistana telle qu'on est tombé ces dernières décennies. Qui fait qu'aujourd'hui, il est plus intéressant de rester chez soi, de percevoir des minima sociaux et des avantages liés aux services rendus, aux diminutions de tarifs sur les services rendus, que de se lever le matin pour aller au boulot en étant payé au SMIC. C'est pas normal. François Fillon proposait à cette époque-là que, à l'époque où il était candidat à la candidature, qu'on ne puisse pas percevoir, à partir du moment où on était sans emploi, plus de 80% que ce que perçoit quelqu'un qui travaille.
Et ce n'est pas le cas actuellement.
Ah ben non, on va pas du tout dans ce sens-là.
Cette taxe d'habitation qui, selon ce que pense M. Larcher et toi aussi, visiblement, ce qui établit la relation citoyen-collectivité, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça, c'est très difficile à démontrer pour les citoyens, justement, qui paient l'impôt, qui paient cette taxe? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression non plus que leur argent est toujours bien employé et toujours...
Le citoyen, il est content quand on lui dit « on va vous supprimer une taxe ». Alors, on va lui supprimer d'un côté la taxe d'habitation, mais comme on met les collectivités en difficulté, qu'est-ce que vont faire la plupart des collectivités? Ils vont augmenter l'impôt. Qui va payer en finalité, si ce n'est le citoyen, sous une autre forme? Donc, je veux dire, c'est pas très correct de dire ça. Le citoyen, il sait ce que fait, où va son argent dans une commune. Quand le citoyen paye sa taxe d'habitation, il sait qu'en contrepartie, la commune rend tel et tel service, dans les écoles, dans les crèches, dans les équipements que l'on peut faire,
etc. Et il faut bien
faire,
que ce soit financé, bien
entendu. Ça, ils le savent. Par contre, quand ça va tomber dans les caisses de l'État, puisque l'État va compenser, mais avec quoi? Et avec quoi nous allons pouvoir le réaliser quand l'État ne compensera plus, si ce n'est qu'en augmentant l'impôt du citoyen de base? Alors, on dit, il sera toujours exonéré sur le plan communal ou sur le plan de la collectivité, il sera exonéré, mais il va le payer sur le plan national. Donc, il n'y a pas
et
de
secret.
Et on
pourra augmenter les impôts jusqu'à quel taux, à ton avis?
Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, je veux dire, aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que le problème de fond de la fiscalité en France n'est pas abordé. C'est extrêmement difficile, je veux bien l'admettre. Mais il faut absolument remettre à plat, c'est ce qu'avait promis le président de la République. Enfin, on a l'habitude des promesses électorales. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il rabote sur tout ce qui est en dehors de lui, de l'État, et puis les collectivités, les offices d'HLM, etc. On fait plaisir, on fait du clientélisme, mais on résout pas le problème. Voilà. Hein. Et de toute façon, la réalité s'imposera un jour. Et il faut vraiment qu'on aille vers un impôt plus juste. Regardez l'histoire de l'ISF, c'est un véritable scandale. On laisse entendre que aux citoyens que l'ISF c'est un impôt idiot. J'ai entendu ça depuis 20 ans, 30 ans. C'est un impôt idiot, faut le supprimer.
Qui coûtait plus à la limite à
percevoir. À recouvrir que ce qu'il a à percevoir. C'est ce qu'on disait toujours. Aujourd'hui, on laisse l'ISF sur les personnes qui ont des logements, qui sont dans l'immobilier, qui servent à faire face aux besoins en matière de logement. On exonère le yacht, l'avion privé, les écuries pour ceux qui en ont, chez les riches. Eux, ils ne paieront pas d'ISF. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Enfin, bon, c'est une aberration du système. L'ISF, si c'est vraiment un impôt injuste, qui coûte cher à recouvrer, il fallait le supprimer complètement et pour tout le monde. Mais il ne faut pas faire ce qui a été fait là. L'immobilier, moi, je ne sais plus qui va construire aujourd'hui. L'immobilier, on tape dans l'immobilier public en réduisant, en imposant aux offices d'HLM de réduire leur loyer. Le privé, on le taxe sur l'ISF, sur ce qu'il va faire pour le logement. Plus personne ne va construire. Aujourd'hui, plus personne. Alors on se dit, c'est pas grave, l'épargne va retrouver dans repartir sur l'entreprise. Mais attention, sur l'entreprise aujourd'hui, placer son argent dans l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus risqué que de le placer dans d'autres formes telles que les assurances ou l'immobilier. Donc, je comprends pas la logique. C'est étonnant, je connais bien Bruno Le Maire, c'est un type brillant, je connais quand il était ministre de l'Agriculture. Il est brillant, mais il faudrait qu'il explique sa logique. Aujourd'hui, on comprend pas.
Alors justement, les explications, je les attends de toi dans une seconde émission. Nous allons faire le tour de ce problème qui est vaste, vaste problème. Et Gérard, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Je suis heureuse, chers amis, d'avoir pu passer ce moment avec vous. Pierre Écart enregistre et réalisera cette émission. À bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel. Thank you.